écoutez.
Légal depuis 1981.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, on a décidé de faire une émission sur les méga bassines. On ne va pas bien traiter dès le début ce qui s'est passé le week-end dernier. On va déjà commencer un petit peu par vous expliquer ce qu'est une méga bassine quelle a été la résistance, l'historique de la résistance aux méga bassines. Alors, je crois qu'on a Gérald au téléphone.
Salut.
Salut, ça va?
Ouais.
Ouais, bon, ça pourrait aller mieux, effectivement.
Bah oui.
Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'une méga bassine?
C'est tout simplement une retenue d'eau. En fait, non. C'est un réservoir artificiel, une levée de terre qui entoure une zone qui est étanchéifiée avec un liner, un peu comme ce qu'il y a dans les piscines. Sauf que ça, c'est très très grand. Hein. Ça fait, les plus grandes font près de 10 hectares. Et avec un système de pompage, ou bien dans une rivière, quand il y a encore de l'eau dans la rivière, ou bien dans la nappe phréatique.
D'accord.
Et c'est destiné, cette eau, elle est pompée alors normalement en hiver, en automne ou au début du printemps, et elle est destinée à permettre l'irrigation des grandes cultures, quoi, qui sont situées à côté, quoi, ou autour.
D'accord. Et c'est surtout les céréaliers, le maïs qui est concerné.
Oui, alors le maïs, c'est vraiment la plante par excellence qui est recherchée, quoi, avec ses mégabassines, parce que bon, le maïs, il faut de l'eau, il pousse à partir de 15 degrés et donc c'est une plante qui vient d'Amérique centrale, hein, et comme tout le monde sait, et donc il faut beaucoup d'eau pour que ça pousse, quoi. Et donc là, c'est ce cadre-là qui permet théoriquement, de continuer à faire du maïs, quel que soit le climat. Alors que le climat est en train de changer assez rapidement. Et on l'a bien vu, hein, il y a des périodes de sécheresse qui sont terribles. L'été dernier, il a fait très chaud. Et puis là, au mois de février, on a eu 3 semaines sans eau. Théoriquement, ces mégabassines sont censées permettre de continuer à produire justement ces cultures qui ont besoin d'un climat quand même assez tempéré comme avant, quoi.
Ouais.
Qui vont avoir de plus en plus de mal à pousser, quoi.
À pousser, bien évidemment. Et ce maïs, c'est pour l'exportation?
Alors, oui, c'est ça. C'est souvent, c'est un maïs qui sert à... Bon, alors, il y en a qui servent à nourrir le bétail. Bon, il y en a aussi, bien sûr, pour une partie, c'est... la nourriture humaine, mais il y a vraiment des productions qui sont tout à fait pas forcément utiles à convenir immédiatement, et notamment bon à la production française, convenir, elle n'est pas destinée à nourrir la population française.
Ben oui, parce que souvent les agro-industriels, ceux qui se font passer pour les agriculteurs, voire même pour les paysans, disent ouais, mais nous, faut bien qu'on nourrisse les gens. Alors faut expliquer. Hein. L'agro-industrie, c'est d'abord une industrie de transformation. Alors d'une part, bon, tu l'as dit, faut donner à bouffer aux animaux, mais bon, c'est pas que pour ça hein, aussi. Mais il y a aussi beaucoup de transformation, quoi, et beaucoup d'envois dans l'agro-industrie, quoi. Pour vous donner un exemple très concret, le président de la FNSEA qui vient d'être élu pour son nouveau mandat et le PDG du groupe Avril. Alors Avril, ça vous dit rien, mais si je vous dis le Sieur, là ça vous dit quelque chose évidemment, ce sont les huiles et c'est tout toute la transformation également de la moutarde, etc., etc., des oléagineux, etc. Et c'est la deuxième fois que le PDG du groupe Le Sieur est président de la FNSEA, pardon, puisque avant celle de la présidente, c'était Xavier Belin qui lui-même était également président de la FNSEA. Ça vous donne un peu le type d'agriculture
C'est du bon monde. Hein.
C'est du bon linge. C'est pas le paysan. Voilà, c'est pas le paysan du coin. Voilà, c'est ça.
Il faut aussi, par rapport aux mégabassines, là je pense à un point extrêmement important, il faut bien que les auditeurs et les auditrices se rendent compte que ce n'est pas comme les étangs qui existait dans le temps, qui était une dérivation, par exemple, d'une rivière. La rivière coulait normalement, quoi, hein, sa source à la mer, et en fait, il y avait une dérivation qui permettait de remplir des étangs et de faire des réserves d'eau. Là, c'est du pompage. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment mécanique, quoi. Et contrairement aux étangs, qui, en fait, rajouter de l'eau, il n'y avait pas de liner là-dessus, et donc ça renforçait la percolation de l'eau, puisque l'eau, au lieu de passer dans la rivière, elle stagnait, et donc elle infusait dans la nappe phréatique. Là, c'est tout le contraire. Ce sont des réservoirs artificiels, et il y a entre 40 et 60% de l'eau qui s'évapore, parce que c'est en plein soleil, bien sûr, ça s'évapore, et tout ça, cette eau-là, au lieu de rester dans la nappe phréatique, ou dans la rivière, elle part dans l'atmosphère, quoi.
Oui, c'est bâché. Hein. Enfin, c'est bâché. La séparation entre la terre et la flotte, c'est une bâche, quoi. Hein. C'est vraiment un réservoir. C'est, on va dire, pour être caricatural, c'est comme si on remplissait une immense piscine, quoi, en fait.
D'où le nom de bassine.
Une immense bassine, voilà. Et en plus, tu l'as dit, donc il y a une évaporation énorme, donc une déperdition, et il y a également une dégradation de l'eau qui stagne et qui reste en surface.
Ah oui, parce qu'une eau qui reste comme ça plusieurs mois en plein air, quoi, avec le soleil, inévitablement, il y a des germes qui se développent, et il y a notamment des bactéries, des cyanobactéries, qui rendent l'eau impropre à la consommation, hein. C'est particulièrement dangereux d'absorber ce genre d'eau. Et il y a aussi il y a une artificialisation de la surface de la bassine, quoi. Parce que c'est plus une terre qui peut être remise à l'état naturel, quoi, où il peut pousser une prairie, où il peut pousser une forêt. Avec ce plastique, c'est fini, quoi. Alors que normalement, le gouvernement a pris des décisions pour stopper l'artificialisation des terres dans le territoire français. Tous ces projets de méga-bassines qui pointent à l'horizon, il y en a des centaines. Hein. Mmh. C'est autant d'hectares qui vont être artificialisés. Quoi.
Donc on résume, c'est une captation d'un bien commun, puisque c'est dans les nappes phréatiques, issu du cycle de l'eau, donc de la nature, au profit d'une petite minorité des agro-industriels, avec en plus un immense gâchis. Donc, à quoi ça peut bien servir, finalement?
Ça sert à faire de l'argent.
Ah!
Tu nous étonnes.
Ah bon?
Et oui, il faut bien voir que les bénéficiaires, hein, les agriculteurs bénéficiaires des bassines, ça représente 6% des agriculteurs. Hein. On peut plutôt d'ailleurs les appeler des agro businessmen, hein, parce que généralement, c'est des très grandes exploitations qu'ils ont. Chaque bassine, en fait, elle est privée, chaque bassine est privée. Par contre, elle est subventionnée à 70% par l'État français, c'est un beau cadeau. Et en fait, bon, pour avoir une part de bassine, quoi, faut pouvoir un peu aligner du capital, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
En fait, c'est une structuration qui se fait de fait des grands, des agro businessmen, quoi.
Tu connais les boîtes qui sont, participantes des chantiers d'un point de vue technologique, technique et industriel. Est-ce qu'il y a des boîtes connues qui se sont spécialisées là-dedans ou qui sont, titulaires ou tributaires des chantiers?
Alors là, comme ça, non, j'ai pas. Il y a une liste qui a été faite, notamment l'année dernière, à l'époque de la première manifestation anti-bassine qui a un peu crevé l'écran médiatique. Il y avait une liste de boîtes de BTP, normalement, et aussi de boîtes de pompage, quoi,
ouais.
Qui avaient été repérées. C'est possiblement des succursales de groupes comme Vinci, quoi.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Et situées localement, quoi, qui justement n'ont pas beaucoup de distance à faire pour aller faire les chantiers, quoi.
D'accord. Et n'oubliez jamais, on y reviendra au cours de l'émission bientôt, mais que pour faire du fric, il faut du flic. Hein. Ça, on y reviendra plus tard, mais souvent, les deux vont ensemble. Quoi. Et il faut le rappeler, parce que peut-être qu'on n'a pas encore assez insisté là-dessus, mais l'eau, c'est quelque chose qui va devenir un enjeu vraiment hyper important, à tel point qu'on a pu parler d'éventuels conflits locaux, voire nationaux ou internationaux. On a la mémoire courte en France, mais on se rappelle que l'année dernière, on a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été obligées de prendre leur douche à la casserole et qui ont été dans l'obligation d'être approvisionnées en eau potable par camion et par bouteille, et encore avec un rationnement assez important.
Oui, mais il y a aussi c'est aussi notre mode de vie qui est un peu délirant et qui fait que on dépense de plus en plus d'eau pour des choses qui sont pas forcément indispensables à la vie humaine, quoi. Et l'industrie est une grande consommatrice, hein,
ouais.
Notamment pour la production d'éléments électroniques. Mais sinon, il y a une tribune qui est passée dans West France, là, qui était une étude des différents postes d'utilisation de l'eau en Loire-Atlantique. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la plus grosse part, près de 70% de l'eau qui était dépensée par les individus, c'était pour la toilette, pour prendre des douches. Alors qu'il n'y a que 1% qui est utilisé pour se désaltérer. Quoi.
Pour boire,
ouais. Ouais. Donc c'est pas tenable, quoi.
Non, c'est pas tenable, mais le problème, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune anticipation. Et puis, d'autre part, tu l'as dit, l'eau potable, ou en tous les cas, la distribution et le contrôle de l'eau qui est un marché... et quelque chose de très ancien en France, hein, pour ceux qui ont une mémoire des années 80, entre la Lyonnaise, entre Suez, entre Veolia, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, sur le contrôle de l'exploitation des ressources naturelles, et en particulier sur celle de l'eau, une implication et un complexe, en tous des cas, industrialo-commerciaux politiques, qui font qu'on n'a jamais pu réellement avoir à la fois un débat, mais aussi une organisation sociale qui permette un libre accès à la ressource, et en tous les cas, une optimisation de l'accès à la ressource.
Oui, surtout que là c'est en train d'être verrouillé, quoi. En fait, la question de l'eau, on peut faire un parallèle avec la question des terres, hein, des communs. Avant, il y avait des terres autour de chaque village, qui étaient ce qu'on appelait les communs, qui étaient gérées par l'assemblée villageoise, quoi, où on faisait paître les animaux, où on pouvait aller chercher du bois, couper des arbres, enfin bon. Et les pouvoirs locaux, notamment les nobliaux, ou alors les couvents et puis les abbayes, quoi, ont mis tout le temps, pendant des siècles, tenté de mettre le grappin dessus, quoi. Donc ça s'est accéléré avec la révolution industrielle. Alors le cas le plus connu, c'est les enclosures en Grande-Bretagne, avec le début de la révolution industrielle, où là carrément on a chassé les gens, et les nobles ont fait des enclosures, sont appropriés les terres, et ils ont repoussé la population pauvre vers les villes, quoi, parce qu'on avait besoin de bras pour faire tourner les manufactures.
Les usines,
quoi.
Ouais, ouais. Et quel rapport
L'eau, c'est un peu pareil. C'est une façon de mettre en place un dispositif qui, une fois qu'il sera en place, sera très difficile à contester, quoi, parce qu'il y aura vraiment une classe de gens qui défendra ses acquis, quoi, et avec la bénédiction de l'État. Et ce qui s'est passé à Sainte-Soline, là, contre le projet de bassine, contre la réalisation de la bassine, c'est ça, quoi. Hein, c'est l'État a fait montre d'une grande détermination, une grande brutalité pour. Il a prouvé qu'il était capable de tuer les gens pour installer cette catégorie d'agro-businessmen.
Et puis, tu l'as dit, il y a aussi la question du mode de vie, à savoir la construction de l'habitat individuel et la fragmentation et la parcellisation des habitats et des modes de vie qui font que chacun est renvoyé à une gestion individuelle et donc n'a pas forcément de rapport à une gestion collective de ses ressources. Un exemple tout simple, dans des immeubles comme des HLM, etc., le simple fait de faire des récupérations d'eau et de collectiviser certaines activités comme les machines à laver ou d'utiliser cette eau récupérée pour d'autres usages, pas celle de l'eau potable évidemment, mais d'autres types d'usages n'ont jamais été pensés dans l'architecture contemporaine ou en tous les cas dans la mise en place d'habitats, on va dire, collectifs ou semi-collectifs.
Oui, ça c'est une grande une faiblesse, quoi, de
complètement
une incapacité à penser collectivement son quartier. Mais déjà, ça serait très politique, quoi. Les gens se regroupent pour se dire, bon, voilà, on habite sur un même territoire urbain, on va essayer de...
Imaginons que des gens qui vivent ensemble commencent à discuter de comment ils veulent s'organiser pour gérer leurs ressources. Ne va-t-on pas jusqu'où on pourrait aller, mon cher? Pourrait être le début de n'importe quoi si les gens commençaient à se parler autre chose que de la météo dans l'ascenseur. Ouh là là.
Oui. Et en fait, cette question des méga-bassines, elle pose ça en filigrane. Hein. Mais de toute façon, actuellement, tous les aspects de la vie sont attaqués par le capitalisme, qui essaie de trouver des moyens de dégager des bénéfices. C'est logique que l'eau ou bien le logement soit remis en question et puis encore plus mis sous pression, quoi.
T'as une idée du combien de bassines il peut exister aujourd'hui en France ?
Non, parce que je sais pas, j'ai pas le chiffre. Hein. Je sais que par exemple, c'est en train de se mettre en place. Il y en a qui sont en place en Vendée depuis longtemps, hein, ou alors en Charente-Maritime ou dans les Deux-Sèvres, puisqu'on a vu les effets sur le Marais Poitevin qui est en train de s'assécher complètement. Ou des rivières qui sont complètement asséchées, quoi. Ça va se développer. Et je sais que dans la Vienne, en novembre dernier, en novembre 2022, là, c'était le préfet de la Vienne qui avait pris un arrêté pour la création de une trentaine de bassines.
Et alors, c'est quoi la nomenclature, Gérald? À partir de quand on parle de bassines ou de méga-bassines, il y a un seuil ou pas?
Non, là on a parlé de méga-bassine à Sainte-Soline parce que c'est effectivement l'une des plus grandes, je crois. Elle fait 10 hectares de superficie d'eau.
6 hectares de flotte.
10
hectares de flotte.
C'est un hectare supplémentaire pour le pourtour.
10 hectares de... Pardon, excuse-moi, j'ai bien entendu, 10 hectares de flotte.
Oui, 10 hectares d'eau avec un fond maximum, je crois, de 4 mètres.
Waouh.
Ah, ça fait des millions de mètres cubes.
Ouais, c'est...
Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que l'exemple de la Vienne, là, tu me demandais combien il y allait avoir en prévision de bassines en France. De toute façon, ils vont essayer d'en faire partout, hein, parce que une fois que ça, ce verrou sur l'eau est posé, ça donne du pouvoir aux membres de la société qui possède la bassine, quoi. Mmh. Et les autres, ils pourront essayer de t'émander de l'eau, mais en fait, ça dépendra du bon vouloir des propriétaires, de ceux qui ont des parts dans la bassine, quoi. Et alors, ouais, pour compléter, pour revenir sur la Vienne, il y a 30 bassines qui ont été mises en projet, quoi. Et il y a eu une commission d'expertise pour voir si les ressources des différentes rivières pour les alimenter seraient suffisantes, ou les différentes nappes. Et sur les 30, il y en a eu 5 qui ont été jugés impossibles à remplir, parce que les ressources en eau sur leur territoire étaient trop faibles.
Trop faibles.
Alors, bon, on peut se dire, ah, ça prouve bien la folie du projet, quoi. Mais en même temps, dans un second temps, on peut se dire, ah, ça se trouve, ils ont mis 30 bassines en connaissance de cause en projet.
Voilà, et pour en faire que 25.
Voilà, en disant, vous voyez...
On est raisonnable, en fait.
Voilà. On a des experts, et quand c'est impossible, on dit non.
Donc, d'accord. C'est pas pour avoir une vision complotiste, c'est pour approfondir ce que tu dis, c'est que cette question de la gestion de l'eau, elle intervient, et c'est même, j'ai employé le terme de guerre de l'eau, c'est quelque chose qui est présente dans, on va dire, les penseurs, ou en tous les cas les gens qui fabriquent la politique de la bourgeoisie depuis quand même quelques années, puisque cette question, elle est posée au niveau international par le PNUD, ou par d'autres organismes de gestion internationale depuis, on va dire, une dizaine d'années, et elle intervient dans les think tanks et dans les groupes de réflexion des gens qui pensent la future crise écologique, crise climatique et l'incapacité de nos sociétés à s'adapter à ce changement climatique, à ce dérèglement climatique. Et c'est des choses qui sont dans les plans, en tous les cas, de la bourgeoisie pour pouvoir continuer à maintenir, d'une part, sa domination, d'autre part, son taux de profit, et enfin, on va dire, le maintien de la société telle qu'elle l'est aujourd'hui, en tous les cas, telle qu'elle, son organisation sociale l'est aujourd'hui.
Oui, il y a des tentatives un peu de tirer des perspectives de rentabilité à moyen terme, quoi, malgré toutes les obstacles qui sont en train de se dresser devant le capitalisme, et ça en fait partie, quoi. Mais il y a aussi on peut aussi envisager, évoquer d'autres choses, par exemple la question du véganisme et la question des steaks végétaux, quoi. Hein, où on met pas mal de différentes plantes qui pourraient être produites comme ça. Là aussi, il y a ce genre de bouffe complètement artificielle, c'est complètement hors sol, et ça permettrait justement de trouver des solutions. Alors les conditions météo et les conditions climatiques, ou les conditions même simplement physiques de la Terre, quoi, sont actuellement très un peu dans une impasse, quoi. On voit pas trop comment ça va pouvoir continuer à fonctionner, quoi.
Bah, il n'est pas innocent que des individus type Xavier Niel, ou même des différents géants capitalistes comme Bezos ou d'autres tarés de la Silicon Valley aient investi massivement sur ce type de recherche et s'intéressent de très près à leur potentiel débouché à l'éventualité d'un marché, en tous les cas, de prendre déjà de l'avance ou déjà des possibilités de contrôle sur ces éventuels marchés, quoi.
Bah, il suffit de voir la bouffe, par exemple, le surimi.
Ouais.
Soi-disant, c'est une pâte avec de crabe. Enfin, bon, ça imite le goût du crabe, tout ça, quoi. Et c'est l'exemple même que avec les épices, ou alors les produits chimiques.
Les colorants, ouais.
Ouais, on peut faire manger n'importe quel type de poisson en le faisant passer pour un autre. En fait, tout ça, tous ces dispositifs, ça peut permettre à maintenir une société humaine hors sol. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout un rapport direct des êtres humains avec ce qui les entoure, quoi, avec avoir un potager, avoir quelques lapins, des poules, tout ça. Au contraire, c'est couper tout ça et faire que les gens soient complètement hors sol et soumis aux publicités, soumis aux productions que le capitalisme pourrait créer dans les années à venir.
Ah bah c'est malin, j'en ai mangé à midi du surimi. Voilà. mais c'était à la cantine, c'est pas ma faute. Tu veux dire que comme il y aurait une réification des rapports sociaux, une réification des marchandises, il y aurait une réification de la bouffe,
hein? Bah oui, c'est on y va.
On y est déjà, surimi, poisson pané, etc., machin. Écoute, je te propose, on te propose de faire, de reprendre la respiration et puis d'entrer dans une description de la manifestation et de ce qui s'est passé, on va dire, un peu plus.
On va commencer déjà par la résistance. Comment elle est née, cette résistance contre
d'accord.
les bassines.
Après une petite pause musicale.
Ok.
À tout de suite.
How important you are. If you're listening to this, you
À l'antenne, ce que c'est comme émission.
Ah ça, je sais plus. Je ne sais plus la référence musicale, c'est un vieux truc de techno que j'avais dans le fond de ma poche, voilà, donc...
D'accord. Bon, on en revient maintenant aux bassines un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire quand est née cette résistance, parce qu'elle est quand même récente?
Oui, faut dire les choses comme elles sont, hein. Elles sont apparues il y a un an et demi.
Oui, c'est ça.
Maintenant, ça fait plutôt 2 ans. Avec l'initiative de faire un peu collaborer ensemble des gens de la Confédération Paysanne, des gens de XR. XR, c'est le nouveau mouvement de jeunes, de jeunesse, pour l'écologie, quoi, et pour le.
Ça veut dire Extinction Rébellion.
Voilà, Extinction Rébellion. Et puis aussi des gens de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, qui après avoir lutté contre l'aéroport, avaient estimé que le combat méritait d'être poursuivi contre d'autres projets. Il suffit d'aller sur leur site, hein, y a toute une présentation des différentes luttes auxquelles ils ont apporté un soutien. Et donc ça a donné cette dynamique dans les Deux-Sèvres, avec l'association Bassine Non Merci,
ouais.
Il luttait déjà depuis des années contre les bassines, puisqu'ils avaient porté devant la justice des plaintes contre les premières bassines qui sont construites en 2015 en toute illégalité, puisqu'elles ont été condamnées, mais elles continuent à fonctionner. Donc Bassine Non Merci faisait des rassemblements, des pétitions, des marches, et en fait, ça ne donnait rien. Les médias ignoraient royalement ce qui se faisait. Et ça d'ailleurs, ça ressemble à ce qui se passait dans la lutte anti-aéroport avant qu'il y ait la ZAD. Il y a eu plusieurs années de suite où il y avait ce qu'ils appelaient des fresques humaines, c'est-à-dire qu'ils destinaient, ils mettaient, les gens se regroupaient et il y avait un petit ULM qui passait, qui filmait, et donc il y avait marqué aéroport non merci. Et une fois que l'action était faite, ça repartait pour un an.
C'est ça.
Et on sentait bien que l'aéroport serait construit et que ça ne ferait pas grand-chose. Mais après, il y a eu la ZAD qui a été construite, et puis on sait comment les événements ont tourné. Donc il y a un peu une similitude avec la lutte contre les bassines, avec la bassine Non Merci qui a pris du poil de la bête et associé à XR, les soulèvements et la contre, est passé à la vitesse supérieure. Et on se souvient tous de l'action de l'automne dernier, là, où à Sainte-Soline, c'était le 29, je crois.
Octobre.
C'est ça.
Ouais. Les policiers ont été un peu bousculés pour que les gens, les différentes colonnes qui s'étaient formées de manifestants puissent arriver jusqu'à la bassine et dire, on occupe symboliquement la bassine. Il n'y avait rien cassé, il n'y avait rien occupé, c'était juste un trou qui commençait à être formé avec des engins de chantier. C'était juste pour dire on était capable d'aller jusque cette bassine-là, même si les forces de police, aux ordres de la préfète, avaient tenté de nous stopper, quoi. À cette occasion-là, il y avait quand même eu, faut quand même reconnaître qu'il y avait eu un jeu du chat et de la souris avec la préfecture, qui avait interdit les routes, qui avait fait une zone rouge, et néanmoins, malgré ça, il y avait eu un vrai camp qui s'était construit avec des milliers de gens qui étaient présents, avec des cantines, des chapiteaux, des discussions, des rencontres, enfin, ça avait été vraiment un gros truc, avec plusieurs milliers de personnes. Et donc ça annonçait bien de ce qui allait se passer au printemps, quoi, puisque la préfecture et le ministère de l'Agriculture n'ont pas du tout stoppé le projet de bassine de Sainte-Soline, quoi.
Il y avait eu aussi, c'est important de le signaler, parce que, bon, évidemment, la répression, elle est massive, elle est de l'État, mais il y a des petits trucs en plus, là, des petits trucs particuliers, spécifiques, justement, à cette mafia agro-industrielle, c'est-à-dire qu'il y avait des participants ou des animateurs de cette lutte contre les bassines qui avaient été soit directement menacés, eux ou leurs proches, soit qui avaient été agressés par des individus ou par des nervis en général qui avaient intérêt à défendre ce type de construction, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est spécifique quand tu t'attaques à des chefferies ou à des barons locaux de te faire emmerder, voire même agresser comme ça, quoi.
Bah, ça, c'est aussi c'est quelque chose qui est un petit peu une constante des résistances aux grands projets. Hein. Il y a toujours des gens d'extrême droite dans le coin qui se disent tiens, c'est le moment de passer à l'action et on va rétablir l'ordre puisque bon il y a trop de contestations. Bon,
oui, puis si on peut se faire un billet en plus en même temps, ça va pas.
Ah, c'est possible aussi, ça. Mais bon, là dans les bassines, là, combien... alors le porte-parole qui est très médiatique, c'est Julien Leguet, là, ouais. Le porte-parole de Bassines Non Merci. Bon, il a reçu plein de menaces, différentes façons, quoi. Mais la police aussi s'y est mis, puisqu'ils avaient trouvé une caméra planquée en face de chez son père pour essayer de voir et d'identifier les personnes qui s'arrêtaient pour venir discuter. Et récemment encore, au mois de février, ils ont trouvé le garagiste de Julien Leguet a trouvé une balise GPS sur son véhicule qui était planquée de façon un peu à suivre les déplacements du porte-parole, qui était trop vraiment au bout de la marée-chaussée. Et donc la police aussi surveille. Et il y a aussi son neveu qui s'est fait agresser une fois. Ouais. Il était parti courir et quand il est revenu, il y avait un gars, il est tombé sur un gars qui essayait d'ouvrir sa porte de domicile. Et en fait, il y en avait un dixième qui était planqué, qui est tombé dessus et il s'est fait vraiment passer à tabac. Il y a eu des fractures et plusieurs jours d'incapacité de travail. Et donc là, c'était vraiment. Et c'était les paroles qu'ils lui ont dit, c'était démontré qu'il. Il s'en prenait à lui parce qu'il était justement en cibassine, quoi.
Ouais, il y a toujours eu un intérêt. Enfin, il y a un intérêt particulier de l'État à la fois sur les grands projets, mais aussi sur cette question écologique. En tous les cas, cette question d'activisme réel et concret écologique. On a ici parlé de toute l'énergie et des moyens qui avaient été mis en place pour contrer les opposants à la poubelle atomique de Bure, la poubelle nucléaire de Bure. Et puis il y a encore quelques années, il y avait une cellule spéciale de la gendarmerie qui avait été créée, qui s'appelait Déméter. Joli, hein, n'est-ce pas, contre l'agro-bashing, hein, évidemment, parce que pauvres agriculteurs, on les embête, et qui vient d'être normalement dissoute parce qu'elle s'est révélée, on va dire, très très limite au niveau de la légalité, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça.
Donc c'est quand même quelque chose qui, je le redis, ce que je disais avant la pause musicale, qui est présent dans la tête des penseurs de l'État et de la bourgeoisie. Ça. Quelque chose quand même qui a été, on va dire, conceptualisé, en tous les cas intégré.
Bah, c'est on voit bien le lien qu'il y a entre l'État et les différents secteurs d'activité du capitalisme. Hein, et on voit bien comment l'État favorise... à tout craint, leur développement, quelles que soient les conséquences et les retombées sur les populations, et quelles que soient les résistances des populations. On le voit dans le nucléaire, comment l'État a favorisé certains grands groupes français qui ont mis en place le programme électronucléaire français dans les années 70-80, et on voit comment il essaye de le faire de nouveau, avec le nouveau programme que Macron nous a sorti de son chapeau. Et en agriculture, c'est pareil. On assiste à un phénomène de liquidation de la petite paysannerie. Hein, enfin, quand je dis petit, c'est quand même déjà 40 hectares, 50 hectares, mais c'est petit. Aujourd'hui, c'est par exemple un département comme la Loire-Atlantique, la moyenne des exploitations, c'est plutôt 100 hectares. Hein, donc c'est fini. Ce qui existait il y a 50 ans, et comme dans les fermes de 15 ou 20 hectares, quoi. Mais il y a eu vraiment une concentration. Je crois que dans la Vienne, par exemple dans le département de la Vienne, pour revenir à ce département-là, il y a une exploitation qui fait 2000 hectares. Ouais. 2000 hectares, c'est vraiment, bon, c'est la taille de, des exploitations
américaines.
Américaines, oui, ou ce qu'on trouve aussi en Ukraine. Parce que après la chute de l'Union soviétique, quoi, il y a eu une vague de libéralisme particulièrement forte qui a été mise en place, et il y en a qui, des petits malins qui sont amenés et qui ont acheté les terres particulièrement riches de l'Ukraine et qui ont fait des méga exploitations. Donc c'est un phénomène mondial. Hein, on trouve ça au Brésil aussi par rapport à la déforestation de l'Amazonie, avec il y a un terme, c'est des grandes exploitations, quoi, qui
le soja, ouais.
Ouais, qui exploitent, qui mettent en place des cultures industrielles, et où en fait, les ouvriers, les anciens paysans deviennent des ouvriers agricoles, des salariés, quoi, avec un taux de mécanisation très élevé. Donc c'est ça qui se passe en France. Mmh. Et ça va être terrible parce que, alors bon, y a des contradictions. Parce qu'on voit, par exemple, en Vendée, à force de pomper l'eau dans leur bassine, ils mettent à plat les ressources aquifères, et résultat, il y a un autre secteur, c'est le tourisme. Ouais. Ils se retrouvent avec une limitation de la flotte, quoi. Et là, ça va coincer. Il y a différents secteurs qui vont rentrer en rivalité, ouais, pour disposer de l'eau. Ouais. Mais ça, à la limite, c'est étranger par rapport à un projet social et politique d'émancipation des gens pour qu'ils aient plus d'autonomie et pour qu'ils puissent définir eux-mêmes leurs besoins et leur mode de vie, quoi.
Il faut jamais oublier que le bourgeois pense à court terme, et donc est particulièrement con, et des fois se retrouve lui-même pris dans ses propres contradictions, quoi.
Bon, mais alors, ce que tu dis.
Non, mais je me réserve le droit.
Donc on en vient à ce qui s'est passé le week-end dernier. Et là, on peut voir que, et comprendre pourquoi, avec tout ce qu'on a dit avant, pourquoi l'État s'est foutu en état de guerre, carrément. Parce qu'il y a quand même eu 5000 grenades qui ont été balancées
en
2 heures. C'est énorme, c'est incroyable. C'est grenades lacrymogènes, mais aussi des grenades du matériel de guerre. Pour tuer, pour tuer.
Oui. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que, enfin, marrant, c'est pas le terme, mais qu'il faudrait employer, mais c'était remarquable. À un moment donné, il y avait une caméra qui faisait une prise de vue justement derrière les lignes des flics, quoi, de Sainte-Soline, et on voyait un gradé qui aboyait sur des flics de base, et qui venait chercher des munitions, quoi, et il leur disait allez, 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 et alors on voyait les flics de base qui prenaient des boîtes entières de grenades et puis qui les emmenaient, quoi. Wow. Et ça faisait penser à ce qu'on voit sur le front Russie-Ukraine, quoi.
Tout à fait.
Avec les pièces d'artillerie, quoi, et où ils n'arrivent pas de tirer obus sur obus. Et là, ça donnait cette impression-là, quoi. La gendarmerie s'était vraiment mise en état de guerre, quoi. Et avait décidé d'empêcher les manifestants d'arriver jusque dans la bassine. Parce que la bassine en question, elle est toujours pas remplie, hein, elle est pas finie. Bon, il y a de la flotte parce qu'il n'y en a plus récemment, quoi, mais il n'y a rien à casser, c'est juste un objectif, quoi, pour la manifestation, pour montrer que les gens refusent ce projet, quoi. Donc la gendarmerie a décidé vraiment de mettre le paquet au risque de tuer et de mutiler à vie grièvement les gens qui sont pas d'accord avec ce projet, quoi.
Tout à fait. Ben, je crois que en plus ça collait bien par rapport à l'idéologie et au moment politique, on va dire que ça se mariait bien. Dans les discussions qu'on avait dans différents groupes par rapport à la possibilité de soutien face à la répression et face aux gens qui se sont fait cartonner à Sainte-Soline, on mettait en avant le fait que, d'une part, il y avait le décalque avec le mouvement des retraites, donc il y avait un signal qui était envoyé à l'ensemble du mouvement social, et d'autre part, il y avait pour la bourgeoisie Darmanin et sa clique qui on va dire, donnait le signal, montrait que lui, il était tout à fait prêt à assumer la carte autoritaire si jamais la bourgeoisie avait besoin de ses services, on va dire, rapidement comme Premier ministre, ou plus tard, dans le cadre d'une future élection présidentielle ou d'une future élection à venir, quoi. Donc, en gros, on saura ça peut-être dans des dizaines d'années lorsque les historiens auront accès aux archives, mais il est évident que ce moment Sainte-Soline, il a été pensé aussi à l'orée, à la lumière, du contexte politico-social qu'on vit actuellement, quoi.
Alors, moi, je pense qu'il y a aussi, oui, c'est vrai, hein, il y avait une décalque par rapport à ce qui se passait au niveau du mouvement des retraites, où il y avait un durcissement, hein, des manifestations.
Oui, tout à fait.
Il y avait de plus en plus de participants jeunes, et donc aussi une capacité à courir, et aussi à...
D'accord. Il y a un renouveau des effectifs, c'est ça?
Ben, oui, forcément. Hein.
C'est-à-dire le banc des remplaçants, voilà.
C'est pas les retraités qui vont courir devant les flics. Donc il y avait... Au moment où c'était en train de se durcir, Sainte-Soline est arrivé. Et je crois aussi qu'il faut noter un peu, moi, ça, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ça me fait penser aussi un peu ce que faisait le préfet de police de Paris, l'allemand, avec qui a créé les braves, même ces policiers montés sur des
motos, des rondes
pour des motos, et puis qui tape sur les gens comme ça pour effrayer et terroriser un peu les manifestants, quoi, une sorte de force de frappe un peu livrée à elle-même. On l'a vu d'ailleurs ces derniers temps, puisque vu comment ils tapent sur les gens et ce qu'ils leur disent.
C'est lâche.
Au moment de Sainte-Soline, en octobre, il y avait un article qui était sorti dans un truc qui s'appelle La Voix du Gendarme.
T'as des lectures, toi?
C'était la haute hiérarchie de la gendarmerie qui faisait le bilan de Sainte-Soline et qui s'était fait avoir. Et qu'il fallait rectifier, quoi. Il y avait une sorte de pensée. Alors, ce qui est intéressant dans ces articles-là, c'est qu'ils ne parlent pas de la gendarmerie en disant la gendarmerie, ils disent l'arme.
Mm-hmm. Oui, la gendarmerie est une arme, hein, oui.
Ouais, c'est une sorte de vénération un peu en interne. Et je crois que en mettant 3200 gendarmes mobiles et différents corps de police sur le terrain, je crois qu'ils avaient vraiment l'intention de montrer qu'ils étaient capables de faire n'importe quoi, ouais, et d'aller jusqu'aux conséquences les plus extrêmes pour remplir la mission que le gouvernement leur donnait, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis oui, il est rassuré et répondre positivement à la demande. Enfin, faut voir ce que ça représentait. Évidemment, on a tous plus ou moins vu les images, mais on a des individus, des charges avec des quads militarisés, avec des gens qui shootent au flashball, quoi. C'est véritablement la guerre. Je me permets fort affectueusement de te faire remarquer que t'en as fait une paire des manifs, mais au niveau de l'ambiance et de ce que ça pouvait ressentir, t'avais déjà vu des trucs comme ça?
Non, je crois que c'est vraiment à Plogoff, c'était fort aussi. Hein. Je pense que il y a eu des moments très très intenses, quoi. Mais le problème, c'est avec les armes qu'ils ont maintenant là. Bon, alors il y a les flashballs. Hein. Les flashballs, ça éborgne, ça casse les os. Enfin, ça fait éclater les organes internes aussi avec le choc, quoi. Donc c'est quand même des armes très dangereuses. Mais avec leurs grenades de désencerclement qui sont très puissantes, quoi. C'est des armes, on l'a vu avec les copains qui ont été très blessés, là, le copain qui est toujours entre la vie et la mort, ça a des conséquences directes, hein, sur
l'état des manifestants. Alors, donner un exemple précis, hein, on parle de la GM2L, donc c'est ce qui se substitue à la Gli F4. C'est une grenade qui est à la fois assourdissante et incapacitante, c'est-à-dire qu'elle explose, il y a du TNT à l'intérieur, donc elle explose en projetant à la fois des éclats de métal ou des éclats de plastique, et elle libère et un bruit assourdissant, et elle libère du gaz lacrymogène. Cette grenade est envoyée par un lance-grenade, donc on appelle un cougar très exactement, qui a une portée avoisinant les 200 mètres.
Mais c'est-à-dire que c'est avec un cocktail Molotov à 25 mètres, on est ridicule, hein. C'est clair.
Pour toi.
Ouais.
Mais donc, vous voyez, la différence quand on nous dit il y a des gens qui sont venus armés et pour se défendre ou qui avaient l'intention de casser des gendarmes, il faut voir le rapport de force qu'on a en face. Alors, pas 200 mètres, c'est la portée, on va dire, idéale, mais donc rien que 100 mètres, vous voyez, la capacité qu'on a à maintenir à distance l'assaillant, quoi.
À Sainte-Soline, justement, ils ont utilisé cette longue portée pour aller impacter les gens qui se tenaient en arrière, qui étaient pas qui ne balançaient rien sur les pics parce qu'ils étaient beaucoup trop loin, et pour les attaquer, pour les faire fuir, pour les déstabiliser, quoi. Donc là, c'est vraiment tirer sur des gens qui ne présentent aucun danger, quoi. Donc c'est vraiment une négation totale de l'utilisation en cas de légitime défense. Là, c'est vraiment ça, quoi.
Alors, on va la faire en mode éditorialiste de plateau, qui aime bien comparer, hein. On disait, ouais, mais partout dans le monde, on travaille pareil, on travaille plus qu'en France. Oui, bah, alors, partout dans le monde, en fait, notamment en Europe, on n'utilise pas des GM2L, elles sont interdites, en fait, parce que ce sont des armes qui sont catégorisées comme étant des armes de guerre, des munitions de guerre, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais nous, nos braves piou-piou français, ils les utilisent. Voilà, c'est aussi la spécificité française de pouvoir défoncer son peuple, en tous les cas.
Bah, résultat, opérants. On a des blessures de guerre, quoi.
Voilà, c'est ça. Ben, résultat, oui, on a des blessures de guerre, on a une chirurgie de guerre, on a des secours, malheureusement, de guerre. C'est la guerre, quoi. C'est la guerre sociale, ouais.
Oui, puis ce qui s'est passé aussi avec le SAMU, là, c'est vraiment un truc de guerre. C'est la même chose, quoi, ce qui peut se passer dans une guerre. C'est-à-dire faire en sorte que les secours n'arrivent pas, quoi. C'est...
Oui, surtout qu'ils avaient amené les blessés. Les blessés ont été amenés par les manifestants à l'écart sur une route qui permettait justement de les exfiltrer. Et là, ça a vraiment été une volonté claire et définitive de la préfecture qui a donné ses ordres à la gendarmerie pour refuser l'accès du SAMU, quoi.
C'est ça, l'opérateur SAMU déclare qu'il est sous un commandement supérieur et qu'il ne peut pas, il n'est pas libre de ses décisions, quoi.
Ouais.
C'est quand même, ça pose question, quoi, au niveau de ce qu'est capable d'assumer comme degré de violence l'État quand il le décide, hein, mais devant en quelle position il place les opposants, quoi. C'est-à-dire que les choses sont désormais clairement annoncées, quoi. Donc ça.
Bah, c'est pas nouveau, hein.
Non.
En même temps, hein, l'État n'a jamais hésité à liquider sa propre population, hein, quand oui. Il le fallait. Hein. Bon, la commune, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant de liquidation de milliers de gens pour réinstaurer la paix.
Ouais, mais dans le consensus social tel qu'il était, on va dire, il semble caduque aujourd'hui, le fait de risquer la mort en manifestation, c'était soit un accident, soit la résultante de comportements individuels, évidemment systémiques, mais qui pouvaient être interrogés. Or, si on prend par exemple la mort de Rémi Fraisse, il y a quelques années, c'est un accident entre guillemets, mais qui est lié à l'usage particulier d'une arme. La mort de Madame Rebouane. Pardon.
Je ne suis pas d'accord. Rémi Fraisse, c'est comme dire, on se rappelle que le préfet avait donné des ordres à la gendarmerie pour dire, il est absolument essentiel de ne rien céder et de maintenir à tout prix les manifestants à leur place, quoi. Le terme exact qui avait été l'esprit est dans ce temps-là, hein. Mais c'est le préfet qui avait donné un ordre explicite à la hiérarchie de la gendarmerie pour bloquer les manifestants à l'ultime conséquence, c'est-à-dire le décès d'un manifestant, quoi. Et il a eu lieu ce décès-là, quoi. Et ça n'a pas surpris qu'il y ait eu le même ordre de la part de la préfecture des Deux-Sèvres faire que la hiérarchie de la gendarmerie refuse que le SAMU vienne, quoi. Ils le savent, ils font le choix délibéré. De toute façon, ils ont tel un tel dispositif médiatique de communication pour dire, regardez, de toute façon, c'est la faute des manifestants, c'est pas nous.
Oui, il y avait une préparation en amont, et en plus, après, il y a eu un service après-vente, une tentative de service après-vente, en disant, de toute façon, c'était des fichiers S. Mais je te rassure, pour moi, l'intention criminelle, ça n'enlevait rien sur l'intention criminelle par rapport à Rémi, Rémi Fraisse. On y était, on avait bien vu qu'il y avait une volonté d'en découdre. Mais là, avec ce niveau de violence, d'armes, de dispositifs stratégiques et de pratiques, c'était évident, quoi. Il y a deux personnes qui sont il en reste une dans un état très très critique, mais il y a plus de 200 blessés, et encore plus, tu l'as dit, il y a des centaines voire des milliers de personnes qui ont eu un impact psychologique lourd, quoi. C'est-à-dire que ils ont été terrorisés, quoi.
C'est le but aussi de l'État. Hein. Moi, ça me rappelle Malville. Hein.
Malville, c'est l'État.
Hein, Malville, c'est ça. Il y a un mort. Et que fait le mouvement antinucléaire à cette époque-là? Eh bien, il se ramasse. Hein. Il faudra attendre quelques années pour qu'il renaisse au niveau des luttes
Il y a le Plogoff.
Parce
que ça a duré quand même pendant un mois, l'enquête d'utilité publique, et puis semaine après semaine, les gens venaient de plus en plus loin, de toute la Bretagne, puis après à l'extérieur de la Bretagne, et il y avait vraiment une relance d'antinucléaire qui a été particulièrement forte, et ça a permis de revenir un peu sur les conséquences de Malville, parce que Malville
C'était terrible,
ça a un peu terrorisé tout le monde, quoi.
J'espère que ça sera aussi l'occasion d'en débattre entre nous et entre vous, les gens qui sont le plus actifs dans le mouvement anti-bassine. Il va quand même falloir se poser la question de nos modes d'intervention et quand même intégrer que c'est assez difficile, et c'est même voire impossible, de vaincre militairement l'État, quoi, comme ça, quoi. C'est aussi des questions qu'à un moment faudra se poser, quoi. Mais bon, ça, c'est moi qui le dis maintenant.
Il y en a d'autres qui le disent, hein, puisque sur le site OCL, vous pouvez lire un texte, un texte important, à mon sens. Nous ne pouvons vaincre militairement la police, soyons plus malins qu'elle.
Ouais. Enfin, ça, c'est pas dur, mais en tous les cas, plus efficace en jouant plein d'autres cartes. Mais bon, voilà, c'est aussi des questions qu'il faut garder dans la tête, parce que quand on voit que il y a des moyens comme ça qui sont déployés avec des volontés, on se fait démonter la gueule, quoi. Vraiment démonter la gueule, quoi.
De toute façon, le problème, c'est que s'ils continuent à s'entêter à construire des bassines, ils ne pourront pas toutes les surveiller 24 heures sur 24.
C'est évident.
Hein, c'est très fragile. Hein, ce sont des membranes d'étanchéité. Il y a plusieurs solutions pour crever ces bassines. Hein,
tout à fait.
Et l'eau, elle retourne à la nappe phréatique.
Je pense qu'il y en a qui y ont pensé déjà.
Bah oui. Et donc, ils vont surveiller là, parce que c'est chaud, et puis que c'est les premières, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer si ça... Hey. Là, le sabotage va réapparaître aussi. Hein,
oui, parce je pense.
Effectivement, avec Sainte-Soline, là, ils ont montré que ils se sont regroupés, contrairement à la dernière fois, ils se sont regroupés autour de la bassine. La dernière fois, ils avaient fait des lignes pour décourager les gens, pour se rapprocher, quoi. Bon, alors bien sûr, ça a été le jeu de l'après-midi, c'était de d'étirer les lignes des flics, et puis après de passer entre chaque flic, quoi. Parce que les manifestants étaient beaucoup plus nombreux. Voilà, là ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont joué un scénario de puissance, de feu, quoi, carrément. Une puissance de feu, quoi.
Ouais, c'est ça, oui. Ils ont tiré dans le tas, comme à la guerre. On te remercie bien.
On aura l'occasion de revenir là-dessus, ouais. Merci, Gérald.
Merci, Gérald, et puis à bientôt.
À bientôt.
Oui, au revoir.
Au revoir.
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier.